Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Boudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte du festival Graphisme, c'est-à-dire Graphisme sans eux. La radio n'est pas le média le plus visuel, soit, mais pour dépasser cet obstacle, je vous propose de suivre deux guides qui vont nous faire découvrir expositions et animations consacrées à la création graphique. Gaël Maury et David Jonathan-Berby, merci d'être venus au micro de Divergence.
Bonjour.
Bonjour.
Gaël Maury, vous conduisez le centre d'art La Fenêtre, créé en 2010 et est installé depuis juillet dernier dans l'aile droite, quand on est face à l'Opéra Comédie. Dans une approche transversale, la fenêtre est ouverte sur l'art, le design, l'image, l'architecture, l'urbanité, la citoyenneté. Quant à vous, David Jonathan-Berby, vous dirigez le réseau des médiathèques et de la culture scientifique de Montpellier Méditerranée Métropole. L'alliance entre la fenêtre, une simple association, certes active et innovante, et un puissant service public de 15 médiathèques s'est révélée durable et féconde. Pour la troisième fois, vous avez coproduit le festival Graphisme. Première question, dans la mise en œuvre de vos objectifs respectifs, qu'est-ce que vous partagez, sur quoi vous rassemblez-vous? Gaël, qu'est-ce qui vous est commun?
Graphisme, c'est déjà le fruit d'une passion commune pour les arts graphiques. Je crois que c'est le point de départ.
Ça, c'est votre passion personnelle.
Alors, en tout cas, personnelle, certes, mais pour la fenêtre, c'est une ligne de programmation des expositions et d'autres formes depuis bien longtemps maintenant. C'est comme ça qu'on se rencontre. Je crois que ce qu'on partage, c'est le désir de transmettre, de montrer, de partager.
Même chose, j'imagine.
Ouais. Partage, transmission, ouverture, accueil sont des valeurs centrales.
Celles que les médiathèques font vivre quotidiennement.
Toutes les médiathèques de France, absolument, et à Montpellier, entre autres. L'intérêt pour le graphisme vient aussi peut-être du fait que les médiathèques sont des lieux singuliers où on trouve une pléthore d'objets dans les collections qui tous, vraiment tous, ont eu dans leur mode de production un rapport au design graphique. Que ce soit un livre, un design graphique par excellence, un CD, un vinyle, un jeu de société, un jeu vidéo, un film, une pochette. Tous ces objets ont trait au graphisme. Et finalement, il y a pas tant de lieux que ça qui nous partagent.
Très bien. Alors, vous le savez, le titre de cette émission, c'est « Racontez-nous votre Montpellier ». Alors, je ne vais pas poser la question habituelle, mais une autre que je vous propose. À grand trait, dites-nous quelle est votre vision de la ville. Non pas la ville avec un grand V, l'institution, bien sûr, mais la ville du cadre de vie et aussi celle de l'espace urbain que vous occupez et animez par vos activités, chacune et chacun, à votre manière. Alors, vision de la ville, Gaël Maury. Vision d'être dans la ville.
Alors oui, on est vraiment dans la ville depuis qu'on est installé Place de la Comédie. Mais pour moi, c'est une expérience fascinante et renouvelée chaque jour parce que c'est l'épicentre en fait de la vie de la cité. Et j'avoue que je suis assez impressionnée en fait par le bouillonnement, l'activité permanente de cet endroit-là. Donc pour moi, en ce moment, la ville, c'est la Place de la Comédie et ça a transformé pas mal ma façon de l'appréhender.
Très bien. Et vous-même, alors, avec le maillage des quartiers et des communes de la métropole constituée par les 15 médiathèques?
C'est vrai que dans un cadre professionnel, mon rapport à la ville, c'est d'avoir un rapport à la métropole, au territoire métropolitain, et qui a un territoire d'un dynamisme incroyable. Ça, je le vis personnellement pour venir d'ailleurs, pour être arrivé il y a quelques années seulement dans le sud. C'est aussi un territoire extraordinairement contrasté.
Par les usages, par les personnes, par les formes que prend d'être dans la ville ou d'être dans l'espace urbain notamment.
Par le paysage, n'est-ce pas, les paysages urbains, les paysages préhumains, par les pratiques qu'on peut observer. Ça en fait à la fois la richesse, ça en fait aussi pour nous un objet de travail et parfois de recherche d'espace de dialogue, de rencontre.
Très bien. Alors, poursuivons. Revenons au Festival Gracine. Bon, il est bon, je pense, d'en rappeler l'ambition originelle qui se renouvelle pour la troisième fois. Et ce n'est pas que des expositions, notamment. Pouvez-vous nous dire un peu quels sont les objectifs que vous avez pointés dans le commun accord l'un et l'autre, et bien sûr mis en œuvre au fil des éditions du festival.
Je pense que les objectifs, ils sont nombreux et ils tournent autour de l'idée que promouvoir une discipline, le graphisme, qui est une discipline visuelle qui fait en même temps appel au regard et à l'intelligence, à l'émotion et au langage, tout à la fois, dans la transmission de messages qui peuvent aussi être d'intérêt général. Cette discipline, la promouvoir, c'est la faire connaître, c'est parfois en s'adressant à des jeunes publics, aller rechercher une désimpression du regard à rapport à l'image, au langage, la S. Ça peut tout ça, et ça passe par des expositions, ça passe par des ateliers, ça passe par de la programmation également.
Voilà, donc transmission, disiez-vous, hein, Gaël Maury, tout à l'heure, donc David Jonathan Béroui confirme cette idée de faire découvrir peut-être une forme d'expression qui n'est pas si connue qu'on peut le penser. Tout le monde voit des affiches, parcourt peut-être des affiches, quelles qu'elles soient, mais ce n'est pas nécessairement repéré comme une forme d'expression artistique comme d'autres.
Alors ça ne l'est pas, parce que effectivement ça s'applique déjà à un usage en général, c'est pour ça qu'on parle d'art appliqué, de création appliquée, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire David Jonathan, on est sur des objets visuels qui convoquent un certain nombre de registres, d'éléments, de culture, d'iconographie, de références. Moi, je suis convaincue de l'incroyable potentiel de cette discipline.
Alors, bien sûr, on va en parler du panorama que proposent les différentes expositions. Alors, quelles sont les nouveautés de cette troisième édition? J'avais noté des partenariats confirmés ou amplifiés avec deux grandes structures, de niveau au moins national, le Cygne et la Contemporaine. Alors, le Cygne comme signal, comme l'oiseau, est basé à Chaumont, dans la Haute-Marne. Les professionnels connaissent ce spot, comme on dit, ce lieu de référence. Alors, de quoi s'agit-il et quel est l'apport du Cygne donc à graphisme?
Alors, le Cygne, c'est le Centre national du graphisme. Qui dispose notamment d'une collection d'affiches contemporaines qui a été constituée au fur et à mesure des biennales internationales du design graphique qui ont lieu, donc, qui la dernière ayant été présentée en 2025. Donc c'est aussi le cas pour la contemporaine. Alors les partenariats permettent beaucoup de choses, David Jonathan le complétera, mais c'est aussi l'accès à des collections d'affiches.
Absolument. Plusieurs milliers d'affiches, hein, c'est ça.
80 000 pour la contemporaine, c'est gigantesque, et puis c'est un terrain de jeu et d'exploration absolument fabuleux.
Donc, voilà. Et donc l'idée me vient qu'en même temps, même si on tend à proposer des nouvelles formes, des nouvelles formes d'expression graphique, hein, et on n'oublie pas le passé, qu'on n'oublie pas la vitalité de la création d'affiches, notamment plus ou moins anciennes, voire il y a plusieurs décennies, sans parler des celles plus anciennes encore.
Quoi. Mais c'est l'association avec ces deux structures nous permet d'aller présenter des objets qui relèvent du patrimoine graphique, mais aussi des affiches de tous les pays. Les collections, les deux collections sont internationales.
Très bien. Et alors, un mot sur la contemporaine. Bon, dites de quoi il s'agit. Hein,
la contemporaine, c'est un lieu incroyable. C'est un lieu que peut-être certains auditeurs, s'ils ont fait des études d'histoire ou de politique il y a 20 ou 30 ans, connaissaient sous le nom de BDIC, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine. La contemporaine, c'est aller tous sur Wikipédia, lire l'article sur la contemporaine. C'est une histoire passionnante qui naît au sortir de la Première Guerre mondiale, d'une philanthropie, d'un geste de personnes très très riches qui étaient effrayées par les horreurs de la guerre et qui ont consacré leurs moyens financiers et leur temps à collecter tout ce qui ne pouvait être collecté pour documenter cette Première Guerre mondiale,
préserver et faire
préserver dans l'idée que ça n'arrive plus jamais.
D'accord. C'est un Nanterre. Hein,
et c'est un Nanterre. Et de fait, Arnis, c'est source du temps contemporain, du temps présent. Et en réalité, il y en a énormément qui relèvent de la création graphique. Et c'est pour ça que la contemporaine aujourd'hui collectionne et développe des collections à l'international dans le domaine des affiches, dès lors qu'elles ont un lien avec l'histoire sociale, la politique, ces enjeux-là.
Et d'ailleurs, on peut dire aussi qu'une des interventions des journées professionnelles du festival faisait écho à ce qu'on appelle la patrimonialisation donc d'affiches d'un jeune Montpelliérain, Théo Garnier-Greuze, dont 60 affiches sont rentrées en collection, soit sa production de graphisme militant. Donc la boucle était bouclée.
C'est de l'époque, ce Théo Garnier.
Il est tout jeune, il n'a pas 30 ans.
Contemporain,
oui, donc, il est tout jeune.
Très bien. Alors, on enchaîne donc et on revient au festival lui-même avec le thème que vous avez retenu cette année, corps et graphisme. Alors, bon, ça peut sembler comme ça assez banal, assez bateau, mais est-ce que, pour le coup, c'est révélateur de la diversité quoi, des usages du corps et de la force de l'expression graphique dans les affiches à partir de ces éléments du corps humain?
C'était surtout un thème qui nous permettait aussi de réfléchir tous ensemble avec l'équipe qui projet, hein, et notamment les gens qui travaillent dans les médiathèques et qui sont partie prenante du festival.
Donc oui, une quinzaine de personnes, c'est ça, qui ont participé.
C'était un thème ouvert qui permettait aussi de beaucoup penser des sous-thèmes. David Jonathan a coutume de dire qu'on choisit le thème d'une exposition ou d'un programme, soit il est tout à fait lié au thème et un peu éloigné du design graphique, soit il est tout à fait lié au design graphique et un peu éloigné du thème, donc ça nous donne quand même une marge de manœuvre confortable. Voilà, cette année, 5 propositions qui toutes ont un lien avec cette question de la représentation du corps.
Ce qui peut être un clin d'œil complémentaire, c'est au sein du graphisme, il y a en lien avec... En particulier, le travail de la typographie, le travail de la force de caractère, de dessin de la lettre. Et dans la typographie, il y a de manière très très présente tout un vocabulaire du corps. Un des jambages, un de l'épaule, un de l'œil de la lettre, du corps du caractère, etc. Il y en a comme ça une dizaine de termes. Donc vraiment, ce lien, il est consistentiel, et pas seulement en français, d'ailleurs. Le deuxième point qui va dans le sens d'asseoir la pertinence de ce thème, c'est le graphisme, c'est aussi une discipline qui est très consciente d'elle-même. Hein, tout à l'heure, vous parlez du rapport à l'histoire, des formes anciennes, et c'est aussi une conscience parfois d'intérêt général. Et notamment, les designers graphiques ont à cœur de proposer des images qui, dans l'espace public, viennent introduire un peu de diversité dans un temps où parfois on s'inquiète d'une standardisation des formes d'un message publicitaire. Et dans ces messages standardisés, nous en plus, le corps est très présent. Mais c'est un corps ni même standardisé, ni même photoshopé, etc. Donc, effectivement, aller chercher ce thème-là et constater, comme Yael l'a fait dans le commissariat de l'exposition Dissection, chercher la présence une partie du corps traitée de manière très différente en réalité, donc c'est très, très réjouissant.
Oui, y compris de manière plus marginale, moins apparente que du terme du corps publicitaire, tel qu'on
peut dire. Moins normative, ça c'est sûr. Je voulais juste dire qu'effectivement, cet aspect de la création typographique est très présent dans la programmation du festival, et c'est aussi grâce à un autre partenariat avec une structure qui est importante pour nous, qui est le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques, via son département graphisme en France, qui nous a donc accompagnés sur l'exposition qui est présentée à Pignan, Faune, qui est donc une commande de caractère typographique réalisée par Alice Savoie. Et tu parlais de graphisme d'intérêt général, c'est aussi l'ensemble qui est présenté à la fenêtre, c'est un de nos beaux restes, au sens où cette exposition en fait rassemble des choses qui ont déjà été présentées. Et donc le CNAP a passé l'année dernière une commande pour la réalisation de 16 affiches toutes magnifiques qui présentent des visuels, des affiches qui relèvent du graphisme d'intérêt général.
Alors avant de revenir à Montpellier, restons un instant dans les communes de la métropole. Bon, l'expo à la médiathèque Lagarde a été évoquée. Il y a la médiathèque Françoise Giraud à Castries qui propose aussi quelque chose encore pendant quelques jours, en tout cas jusqu'au 2 mai. Là. Qu'est-ce qu'on peut voir à Castries?
On peut voir une sélection d'affiches anciennes pour certaines, du Festival Montpellier Danse. Ça, c'est une très jolie histoire de coopération avec ce grand festival et l'Agora de la Danse plus généralement. Ça vient aussi éclairer quelque chose que je trouve très, très intéressant et à valoriser, qui est la coopération entre ces grandes institutions culturelles et des graphistes ou des studios. C'est le cas aussi pour les 13 vents, puisque le travail de Formevie, en tout cas d'Ariane Zamit, il est plusieurs fois présenté dans le cadre de Dissection. Et là, le Festival Montpellier Danse a donc commandé, créé, montré, exposé dans l'espace public depuis des années de très belles affiches, évidemment, qui mobilisent le corps, puisqu'on est sur le sujet de la danse. Donc voilà, cette exposition, elle présente, je crois, une quinzaine d'affiches.
Sur une trentaine, donc, sur une trentaine en
oui,
tout.
Oui, il a fallu faire
oui, il y a une photo très connue, Jean-Paul Montanari.
Absolument.
Devant les affiches. Mmh. Bon, comme j'étais associé à une de ses créations, là, je regarde ça d'un œil particulier. Alors, revenons, David-Jonathan Berubi à la médiathèque Émile Zola, donc dissection du corps. Alors, qu'est-ce qui donne sa raison d'être à cette exposition, en même temps, qu'est-ce qu'elle démontre, c'est très frappant, me semble-t-il, la diversité des sources de l'inspiration là, d'une quarantaine d'artistes et d'ateliers. C'est un parcours, un parcours, on va de choses connues qu'on peut avoir en tête, il y a beaucoup de découvertes, et surtout, c'est formidablement varié, quoi.
Alors, si vous me permettez, je voudrais partir du point de départ. Le point de départ, il se trouve au rez-de-chaussée. Alors, ça a l'air de rien, de dire cela, mais en réalité, c'est une nouveauté pour la médiathèque Émile Zola.
On rentre, on est tout de suite à hauteur du parvis.
On y est à la médiathèque, que ce soit pour aller dans les collections courantes ou au Café des Lettres, boire un café, ou dorénavant, voir une exposition. Et je voudrais adresser les remerciements à toutes les équipes de la médiathèque Zola qui ont fourni un travail colossal pour rendre cela possible. Ça nous va pas du tout de ça.
Pour l'installation, la mise en place de la scénographie.
Pour rendre l'espace occupable et relocaliser la fonction très importante d'accueil des partenaires éducatifs dans un autre lieu de la médiathèque et libérer cet espace pour une fonction d'exposition. Alors, ce parcours, cette exposition, de mon point de vue, les femmes sous le contrôle de Yael, qui en est la commissaire, cette exposition, on peut effectivement la voir comme une introduction problématisée à la manière dont les graphistes traitent le sujet du corps, ou des parties du corps, et c'est très stimulant. Et c'est très stimulant aussi, d'ailleurs, si nous avons un intérêt historien. L'histoire du corps, c'est une discipline extrêmement importante, qui nous enseigne qu'à travers les époques, les parties du corps ont été vues, perçues, représentées, désirées, de la même manière. Il y a une autre manière de voir cette exposition, c'est une manière détournée ou collatérale, mais c'est qu'en réalité, en suivant ce thème extrêmement prometteur, pertinent, la sélection faite par Yael produit un très bon panorama de la création graphique, tout court, corps ou pas corps.
Ah oui.
Bon, et ce panorama qui fait une large place à la création la plus contemporaine, c'est-à-dire là, cette année, ou l'année dernière, bon, et qui remonte, notamment avec Roman Sisnevich, aux années 60. C'est aussi un parcours très chouette, notamment dans le cadre des visites guidées que nous proposons, parce que ça permet là, finalement de s'adonner au plaisir, eux, hédonistes, de la lecture d'images, où on a commenté les affiches, les décrypter, les comprendre, et en faisant des voyages, des sauts plus dans le temps et dans les thèmes.
Ah oui, ça, on peut la parcourir comme apprentissage de ce qu'est l'art graphique. Oui, commentaire complémentaire, Gaëlle Morid.
Oui, non, mais effectivement, c'est un panorama qui est très varié. Ce que je trouve aussi étonnant, c'est que les affiches anciennes ne sont pas les moins contemporaines en termes de traitement graphique ou de sujets abordés.
De puissance,
alors évidemment, dans le cas de Sisnevich, c'est frappant. Mais c'était un exercice très, très stimulant à mener.
Alors, entre, bon, on a fait un petit parcours dans Montpellier, entre la médiathèque, l'Émile Zola, Antigone et la fenêtre à l'Opéra Comédie, il y a un point commun, vous l'avez évoqué, les travaux de Roman Chilewicz, une des figures du graphisme polonais. Alors, petit éclairage historique sur la place qu'a eue l'école polonaise dans le renouveau, dans la relance, dans le regain du graphisme en Europe.
Alors, c'est une école majeure dans le design, dans le graphisme et dans le design graphique, et qui en plus a, la France a des liens très serrés avec cette école. C'est-à-dire qu'il y a de grands graphistes qui sont allés se former à Varsovie dans les années 50-60, le maître absolu pour tous étant Tomaszewski. Et Roman Chilewicz a fait la plus grande partie de sa carrière en France. Il a commencé en Pologne, mais il est arrivé en France dans les années 60, si je me souviens bien, et il a pris la direction artistique, un certain nombre de revues, et il a produit beaucoup d'affiches et d'images en France. Donc c'est une figure majeure, et c'est, à mon sens, une source intarissable de plaisir graphique. Il y a des images très
fortes. Et d'inspiration pour les jeunes graphistes aussi.
Et absolument. À mon avis, il est toujours aussi autant d'actualité dans ses formes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart ont été faites avant l'ordinateur.
Voilà, ça, là aussi, ça pourrait donner lieu à réflexion ou à échange. Alors, chers auditeurs, vous avez le temps d'aller à la fenêtre jusqu'au 29 août sous le titre « Beau reste » au pluriel. Vous y trouverez en 5 ensembles des fragments d'exposition intérieure. La première question à ce sujet, Gaël Maury, c'était quoi votre idée de montrer des bouts d'expo, quoi, et de donner du sens à cette juxtaposition?
Alors, en fait, c'est des ensembles qui tous ont un lien, en fait, avec le festival et sa thématique. Par exemple, il y a un ensemble d'affiches de Félicité Landrivon, qui est la graphiste qui a réalisé l'affiche pour cette édition. Ça me semblait intéressant de contextualiser cette affiche qu'on voit partout dans les rues avec sa production.
Son travail, oui.
Absolument. Mais de fait, c'était aussi un reste d'exposition, puisque c'est une exposition qu'on avait montrée, alors pas dans cette forme-là, chez Entrée Libre, début 2025. Et puis voilà, chemin faisant, j'ai aussi voulu présenter le travail de Marion Cachon, qui a produit une très belle recherche et une très belle exposition sur la gauchère, sur l'écriture gauchère. Donc on était dans le corps, mais on était aussi sur un reste d'exposition, puisque l'expo, on l'a récupéré directement de Nîmes et du CACN. Voilà, ce n'est que deux exemples parmi d'autres. Le module de Fosfire Books, qui est l'éditeur montpelliérain, avait été présenté à Glassbox. C'est aussi une façon pour nous d'expliquer d'une certaine façon, un peu en sous-texte, comment ça se passe aujourd'hui pour une structure de diffusion, de constituer et de produire une exposition. C'est compliqué.
Oui, parce que ça raconte quoi? Une espèce de compagnonnage, je dirais, avec des structures amies ou
Ça raconte effectivement, ça c'est très positif, ça raconte le compagnonnage et c'est absolument nécessaire. Et au fur et à mesure de ces 15 années, il y a des liens forts qui se sont construits entre les différentes structures, mais ça parle aussi d'une sorte de débrouille. Réactivation.
La débrouille des graphistes, la débrouille des lieux de diffusion ou de présentation de leur travail.
Oui, des lieux de diffusion.
La précarité, ou en tout cas, si ce n'est la précarité, du moins la fragilité peut-être de certains d'entre eux, là, de ces lieux-là.
Effectivement.
Effectivement, c'est une vocation du système des vertueuses qu'on reconnaît à des lieux d'art, à des associations de taille modeste qui sont obligées de compenser par la créativité et la réactivité de moyens en moins. C'est aussi, moi je trouve, une très belle concrétisation de cette idée qui nous est très tendance dans le monde culturel, qui est celui du recyclage.
Oui.
Alors le terme va être connoté péjorativement, il est de moins en moins. Au contraire, c'est aujourd'hui comment ce qui a été produit à un moment donné, dont il est quand même peu probable que ça soit vraiment obsolète en moins de 50 ans, on va dire. Alors comment on ne le laisse pas forcément dans un placard, mais on le réutilise, on le re-questionne, on le réarticule autrement. Je trouve que c'est
Ça, c'est une manière peut-être pour le design graphique d'être en phase avec la société et ses préoccupations.
En tout cas, il y a aussi une autre dimension qui est là, très spécifique à la fenêtre, et qui légitime aussi totalement cette démarche qui ne devra pas devenir systématique. Mais c'est qu'on arrive dans un nouvel endroit, on est confronté à des nouveaux visiteurs, et beaucoup de nouveaux visiteurs. C'est la grande chance qu'on a à Place de la Comédie. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent la porte, qui ne savent pas ce qu'ils vont voir, qui n'ont jamais vu une des expositions intérieures de la fenêtre. Et donc, il y avait aussi toute logique à remontrer certaines choses. On va présenter, on va récupérer donc un dernier reste, un dernier ensemble avec les affiches de Cislevich qui sont présentées à la médiathèque Zola, donc une fois que l'expo sera terminée. On a fait une exposition sur Cislevich en 2018. Voilà, je suis persuadée que beaucoup de Montpelliérains n'ont pas vu cette exposition. Ce sera l'occasion de réactiver ça aussi.
Ah, donc vos propos, c'est une manière, on arrive au bout là, de tracer des pointillés sur la suite. Bon, on peut espérer qu'il y aura une quatrième édition de graphisme dans un an ou peut-être
On travaille déjà sur cette
prochaine édition. On va échanger des idées, à repérer des choses nouvelles à montrer.
On est assez avancé. Mais ça sera.
Me semble-t-il, à poursuivre ce travail, moi je formule comme ça, de. Il y a eu un travail de création d'un public de Montpellier Danse au fil des années. Il y a des Montpellierains qui sont devenus, si ce n'est des experts, des connaisseurs affûtés de la danse. Et là, je me disais que ça peut être ça dans 5 ans, dans 10 ans, graphisme, c'est-à-dire un public de Montpellier, mais pas seulement, bien entendu, qui, je dirais, s'appuierait sur les initiatives, celles du graphisme également, celles au cours de l'année. Là, à Emory, il n'y a pas que graphisme dans le travail que vous faites en la matière.
Et j'espère que ce que vous formulez deviendra réalité. Ça serait super. Je crois que c'est un de nos objectifs.
Très bien. Et bien sûr, ces paroles optimistes, c'est bien d'être un peu optimiste à notre époque. Je vous remercie, Alain.
Merci, Alain.
Merci, Alain.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.